Vous allez écouter Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial local et réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux, Comte à Venessin.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Envie d'entreprendre, l'émission qui met en avant le dynamisme des entreprises et l'initiative au service des entreprises. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui sera sur la clause d'insertion professionnelle. Et je rappelle que cette émission est en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux, Comte à Venessin. Nos invités pour cette émission aujourd'hui avec Monsieur Biel Siegfried, vice-président délégué à la politique de la ville et aux actions solidaires à la COV. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi la facilitatrice clause sociale Nord-Vaucluse et Haut-Vaucluse avec le CIE 84, c'est Cécile Lazim, bonjour. Et nous avons aussi Nicolas Ramos, le directeur technique de l'entreprise Arco Bâtiment à Carpentras, bonjour.
Bonjour.
Et enfin Caroline Fort, qui est responsable de l'agence actuelle intérim insertion A2I à Carpentras, bonjour.
Bonjour.
Juste avant de rentrer vraiment en détail dans cette émission, je voudrais qu'on fasse un petit tour de présentation. Et on va commencer justement avec Cécile Lazim pour savoir un petit peu qu'est-ce que le CIE 84.
Oui, alors le CIE 84, c'est le collectif Insertion Emploi 84. Donc, ça représente 16 structures de l'insertion sur tout le territoire du Vaucluse. Par structure de l'insertion, donc c'est les SIAE, plus communément, comme on dit. Donc, c'est les structures qui développent les chantiers d'insertion, les agences d'intérim de l'insertion également, les assos intermédiaires et les entreprises de l'insertion. Donc, dans différents domaines sur tout le territoire Vaucluse.
Donc, en tant que facilitatrice de la clause sociale, votre rôle principal ?
Ma mission principale est d'accompagner la mise en œuvre de la clause sociale dans le cadre des marchés publics ou privés plus à la marge, mais essentiellement dans les marchés, donc aux côtés des donneurs d'ordre. Donc c'est marchés publics, mais ça peut aussi être des bailleurs sociaux, différents types de d'achats. Donc aux côtés des commandes publiques, en lien avec les entreprises et les partenaires de l'emploi et les structures de l'insertion.
À vos côtés, il y a Caroline Fort, alors qui représente l'agence actuelle intérim insertion. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors A2I, du coup, fait partie du groupe actuel. C'est la structure insertion, en sachant qu'à ce jour, il y en a 4. A2I, ISA Intérim, Insert Emploi et Serins, et que ça représente 99 agences en France. On est numéro 1 aujourd'hui des ETTI, entreprises de travail temporaire d'insertion. Et du coup, sur Carpentras, on a une structure A2I insertion qui a pour vocation d'accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi et de répondre aux demandes des entreprises selon leurs besoins, que ce soit lié aux clauses ou tout simplement pour répondre à leur politique RSE.
On va continuer ce petit tour de table assez rapide avec Monsieur Ramos. Alors Monsieur Ramos, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, vous, l'entreprise Arco Bâtiment que vous représentez aujourd'hui ?
Alors oui, bien sûr. Donc nous, on est une entreprise du bâtiment depuis 92, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est sur le marché. On est de Carpentras, on est du Vaucluse depuis le commencement. On intervient sur tout le bassin méditerranéen et un peu la région parisienne. Mais bon, le plus gros de notre métier se fait dans le bassin vauclusien, quoi, je dirais. Donc aujourd'hui, on a entre 100 et 120 personnes embauchées ou en insertion ou en intérim pur. Et on recherche toute l'année du personnel pour répondre à tous nos marchés, que ce soit public ou privé.
Et avec M. Biel, justement, qui ne s'est pas encore présenté, c'est quoi votre rôle, M. Biel, de vice-président délégué à la politique de la ville et aux actions solidaires à la COV, justement ? Et pourquoi votre présence aujourd'hui dans cette émission, d'ailleurs ?
Alors, donc, la politique de la ville s'intéresse et est censée donc, apporter un soutien aux quartiers prioritaires. Donc, sur la COV, ce sont les 4 quartiers de Carpentras, les Amandiers, donc le Pou-du-Plan, le Centre, ainsi que Ville-Marie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on intervient, et notamment donc, cette clause d'insertion dont on va parler aujourd'hui va concerner, pas uniquement, mais va concerner notamment donc les personnes qui sont sur ces quartiers prioritaires.
Vous introduisez un petit peu la suite de cette émission. Qu'est-ce que la clause d'insertion ?
Donc la clause d'insertion, c'est une clause que l'on va insérer dans un contrat et qui va contraindre le co-signataire à réserver des heures pour l'insertion professionnelle.
Depuis combien de temps la COV d'ailleurs a mis en place ce dispositif de la clause d'insertion dans le cadre d'un marché public ou privé, hein ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est dans le cadre des deux. Alors, sur l'historique, on va dire que donc au tout départ, donc, c'est la ville de Carpentras en 2012 qui a commencé à insérer ce type de clause dans le cadre du PNR-CAD, c'est-à-dire la réhabilitation des quartiers dégradés. Et le véritable changement se fait en 2016. C'est là où la clause va être boostée véritablement par donc, la signature donc, d'un partenariat donc, entre la ville, la COV donc, qui intervient maintenant, ainsi qu'avec du coup avec le CUE aussi, puisqu'il y a également donc, ce poste de facilitateur qui a été créé. Et également, comme vous l'avez abordé tout à l'heure sur la question des bailleurs sociaux, également une clause qui va imposer aux bailleurs sociaux qui eux-mêmes dans leur marché vont être obligés d'insérer cette clause d'insertion.
Et alors, quelles sont peut-être les entreprises justement qui peuvent être concernées par ce dispositif? Entreprises du bâtiment principalement?
Alors c'est vrai que le premier réflexe, et on en discutait tout à l'heure donc avec M. Ramos, c'est vrai que les entreprises du bâtiment sont les plus à même, on va dire, de jouer le jeu dans cette insertion. Maintenant, il n'y a pas que cela. Il y a également donc les prestataires de services, on en parlait aussi, donc le nettoyage dans les écoles. Et il y a également une volonté aussi de la COV de développer cette clause d'insertion dans les marchés intellectuels.
Alors déjà, est-ce que peut-être Cécile, Nicolas ou Caroline, vous souhaitez rebondir sur quelque chose qui a été abordé par M. Biel ?
Oui, par rapport au marché de services notamment, parce que c'est vrai que c'est une spécificité sur le territoire de la COV, puisque au niveau national, je crois qu'on est à plus de 80% de marché vraiment dédié au BTP. Et voilà, on est à plus de 35% de marché de services sur le territoire qui sont possibles, notamment grâce aussi à un engagement en lien avec des marchés de remplacement de personnel qui permettent aussi de toucher un public féminin et de nouveaux types, des métiers aussi du tertiaire et pas seulement BTP, voilà, qui fait qu'on a une belle parité aussi sur le territoire homme-femme grâce à ces marchés.
Alors Monsieur Biel, pour finir, une autre petite question, pourquoi est-ce que la COV a voulu s'engager justement dans cette démarche avec la mise en place de ce dispositif ?
Parce que, bah, indépendamment même de la question de la politique de la ville et d'aider donc, les personnes sur les quartiers prioritaires, l'insertion professionnelle est quelque chose qui est plus large et qui correspond véritablement aux objectifs que la COV veut atteindre. Et comme on le disait, donc, le fait d'arriver à activer quelque chose, à favoriser l'emploi de personnes qui en sont éloignées au départ, est quelque chose qui est fondamental. Et comme je le disais depuis tout à l'heure, donc depuis 2016, la COV est à fond sur cette clause d'insertion qui en plus donc, a des effets vraiment bénéfiques. Je pense qu'on l'abordera un petit peu plus tard.
Alors, je vais me retourner vers Cécile Lazim. Qu'est-ce que le CIE 84 apporte à la COV en tant que collectif d'insertion dans le cadre du dispositif de la clause d'insertion professionnelle ?
Outre la force de réseau, c'est des structures dont c'est le métier principal que d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi progressivement pour un retour, une prise de confiance et vraiment aller vers l'emploi, et que ce soit vers des agences d'intérim classiques ou spécialisées dans l'insertion, vers l'entreprise. Et donc c'est toute cette mise en relation possible grâce à ses partenaires que sont les membres du collectif, et également l'ouverture en lien avec les partenaires de l'emploi au sens large, Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, parce que c'est tout un réseau en fait qui travaille ensemble. Voilà, le collectif, c'est vraiment aussi la spécialité des structures de l'insertion que d'accompagner des publics éligibles. En résumé, sur à la fois la reprise de confiance en soi, toute la dimension sociale et professionnelle au sens large pour retourner au travail durable.
Maintenant, on va parler d'agences d'intérim. Comment se passe ce recrutement intérimaire des candidats ? Expliquez-nous un petit peu, peut-être Caroline, ces étapes.
Alors à la base, sur la structure A2I Insertion, j'ai une collaboratrice qui a pour rôle d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi. À noter qu'en fait, d'abord, on va déjà faire un point sur le savoir-faire et le savoir-être des candidats. Et ensuite, on va valider que ces personnes sont éligibles à l'insertion. L'éligibilité, elle passe par différentes étapes, à savoir est-ce que la personne rentre dans les critères insertion, à savoir des jeunes de moins de 26 ans qui sont référencés à l'émission locale. Enfin voilà, il y a tout un tas en fait de critères et on est aussi en lien avec la facilitatrice pour valider du coup ces critères et sélectionner du coup le candidat et sur le savoir-faire et sur le savoir-être et du coup sur les critères d'insertion. Il faut savoir que sur notre structure A2I, on a pour volonté d'accompagner ces mêmes personnes pendant 2 ans.
J'allais vous demander les étapes, voilà la durée.
Ouais, c'est un accompagnement qui est extrêmement spécifique avec un suivi qui est régulier, récurrent. Notre objectif, c'est pas seulement de positionner ces personnes en mission, c'est de les faire évoluer au sein d'une même entreprise ou de différentes entreprises et de le faire évoluer professionnellement. Ça passe aussi par de la formation, faire passer des CACES, notamment, entre autres, mais ça peut être d'autres types de formations pour faire monter les personnes en compétences. Et cet accompagnement, il se fait pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, cette personne, du coup, ne rentre plus dans les critères d'insertion et bascule sur notre structure actuelle. Mais ce qui va faire toute la différence entre une TTI et une agence intérimaire qui pratique de l'insertion, c'est que nous, aujourd'hui, on est corps et âme et on est voué, en fait, à l'accompagnement de ces personnes-ci, mais vraiment de manière spécifique.
Et on a un suivi pendant plusieurs années, finalement, au-delà de 2 ans, c'est ça?
Alors, au-delà de 2 ans, mais on va dire que la concentration se fait sur les 2 premières années. Après, on a aussi des comptes à rendre par rapport à ces publics qu'on accompagne et qu'on fait évoluer. Et on a des critères sur lesquels on va être objectivé, entre autres, à savoir la délégation du personnel féminin, le nombre de personnes qu'on a pu faire entrer dans le cadre de cursus de formation, les clauses qui font partie effectivement d'un des critères. Il y a noté d'ailleurs que 2023 démarre très fort. Par rapport à 2022, on a déjà doublé en tout cas notre objectif. Donc c'est,
et comment on l'explique? Comment...
Plus d'opportunités. L'année dernière, on avait eu moins d'opportunités sur les clauses sociales. On a du coup, à contrario, fait travailler plus de personnel féminin ou fait plus de formation. Et là, on a eu beaucoup plus d'opportunités par le biais des clauses. Et puis, un renforcement du partenariat avec la facilitatrice, Cécile, qu'on voit très régulièrement aussi pour faire le point sur les chantiers et pouvoir positionner le public.
Et alors, chantier, vous parlez de chantier, justement, c'est une bonne transition aussi pour la question suivante pour Monsieur Ramos. Monsieur Ramos, quels sont justement les grands marchés publics et privés dans lesquels vous avez été présent ces dernières années?
Alors nous, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des marchés privés. On a, je parle pour la partie Vaucluse, donc des chantiers de collectifs, donc de l'habitat collectif, sur Carpentras, sur Aubignan et sur Baume de Venise. Donc les 3 dernières années ont été concentrées sur ces chantiers-là pour l'insertion sociale. Pour parler un peu plus dans le vif du sujet, les candidats que nous sommes envoyés par les agences d'intérim ou la COV sont prises en charge par nos chefs de chantier avec une formation théorique, je dirais, sur le chantier et un accompagnement par un chef d'équipe qui les suit tout au long de sa période de formation jusqu'à, pour certains cas, une embauche qui finit... où aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui ont été embauchées au sein de la clause.
Voilà, donc finalement, de pouvoir embaucher de manière pérenne sur plusieurs années, c'est l'objectif aussi.
Bien sûr.
Parce que trouver un salarié, ce n'est pas évident aujourd'hui.
Ouais,
qui est formé.
Notre plus gros problème dans le bâtiment, c'est de trouver des gens qui ont envie et qui rentrent dans le moule du bâtiment, qui n'est pas un métier facile, je dirais. Et on arrive à trouver des candidats qui restent avec nous pour continuer l'aventure.
Et donc vous avez participé, je le vois, notamment les Bastides de Caroline, ça c'était en 2018. Ouais. Plus récemment, donc Cœur de Baume.
Oui, qui vient de terminer il y a 2 mois.
C'est ça.
Une opération donc avec Grand Delta Habitat. Hein.
C'est ça.
Moi j'aimerais savoir un petit peu la part de travail réservée pour une action d'insertion professionnelle lors des chantiers.
Alors c'est variable, ça dépend de la taille du chantier. Du budget. En moyenne, on est sur un taux de main-d'œuvre de 5%, un calcul d'un temps d'insertion dédié de 5%. Mais après, tout dépend de la concertation aussi avec la commande publique, avec le donneur d'ordre, l'acheteur. On peut être sur autre chose que des heures d'insertion uniquement. Ça peut être aussi un lot réservé à une structure de l'insertion dans le cadre des espaces verts pour vraiment là toucher encore un plus large public. L'insertion peut être un critère aussi. Donc, il y a quatre modes de calcul. Une collectivité peut choisir d'acheter de l'insertion dans le cadre vraiment de l'objet de son marché. Donc,
c'est obligatoire, hein, c'est ce qu'on disait. Ouais. Dans chaque marché, c'est obligatoire. Il y a une petite partie qui est réservée notamment à de l'insertion.
Quand le donneur d'ordre en fait le choix ou parce que voilà il a enfin c'est voilà c'est un positionnement oui ça devient obligatoire après pour toutes les entreprises qui vont répondre à ces marchés effectivement la clause est une obligation et la mission de facilitatrice c'est d'accompagner donc le donneur d'ordre mais aussi après les entreprises que ce soit un réflexe pour elles aussi progressivement dans leurs besoins de recrutement et j'ai envie de dire même des fois hors marché clause pour justement aller chercher du public accompagné, prêt au retour à l'emploi, parce que voilà, il y a des activités parallèles, que ce soit les agences d'intérim de l'insertion, les structures de l'insertion qui préparent, et on peut avoir vraiment des profils qui répondent à la demande des entreprises. C'est un enjeu, hein, vraiment, pour les entreprises aussi, les accompagner et puis de les aider à... du sourcing supplémentaire.
Monsieur Ramos, est-ce que vous souhaitez peut-être revenir dessus ?
Ouais, ben moi, quand on a affaire à cette clause, on rentre en contact avec le CIE 84 et de suite, on a un accompagnement qui se fait et on arrive à avoir des candidats assez rapidement, je dirais, pour répondre à tous les besoins qu'on a sur le chantier, puisque nous, on a des lots qui sont assez importants. Et on a pas mal d'heures d'insertion à faire et ça nous permet de gérer pas mal de nouvelles personnes et permettre de développer et d'arriver à une embauche finale. Quoi.
Et alors, donc, quels sont les profils, à quel profil s'adressent un petit peu ces emplois ? Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément du secteur du bâtiment. On disait qu'ils peuvent être aussi dans les QPV, dans les quartiers. D'où viennent ces profils et qui sont-ils ?
C'est très très vaste finalement parce que c'est vrai que dans les critères d'éligibilité, on va retrouver les demandeurs d'emploi longue durée, les bénéficiaires du RSA, les personnes qui vont porter une reconnaissance travailleur handicapé, les jeunes de moins de 26 qui ont un parcours où il y a eu un petit trou dans la raquette, mettons. On regarde une situation globale aussi, c'est-à-dire que la clause a pour mission vraiment de concerner quelqu'un qui n'a pas une continuité de parcours, mais ça peut être des profils en reconversion également. Voilà, il y a différents critères, mais en même temps, on ne peut pas fermer un seul type de personnes parce que on peut trouver tous les profils finalement, que ce soit dans le BTP ou l'administratif, la communication. Ça peut être une femme plombière, ça peut être vraiment des retours dans des nouveaux domaines de prédilection. Donc, c'est une situation globale. Mais effectivement, on a pu observer parce que lors des demandes d'éligibilité, donc qui me sont adressées, hein. Ça passe du coup, moi j'ai la mission de contrôle également, que les heures sont bien réalisées par des personnes éligibles. On demande également de savoir le lieu de résidence des personnes et on constate qu'effectivement, sur les 10 ans, là, quand on a croisé les données, pour les 10 ans de clause sur le territoire de la COV, qu'il y a 37% par exemple de quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est... Là aussi, par rapport à certaines données nationales, on est nettement au-dessus et donc ça permet de voir qu'on lève des freins de peut-être de petits niveaux de diplôme ou de problématiques de mobilité. Du coup, dans le constat, c'est plein de situations différentes qui font aussi la richesse du public ciblé.
Caroline, vous en tant qu'agence intérim aussi, est-ce que les profils que vous voyez passer, ça rejoint un petit peu ce que dit Cécile ?
Alors, ça rejoint Cécile en sachant que il y a encore quelques années, on avait pu observer qu'on pouvait avoir du public expérimenté. Enfin, moi, j'ai eu délégué des maçons expérimentés et qui, pour diverses raisons, rentraient dans les critères insertion. Aujourd'hui, on constate quand même que la plupart du public qui rentre dans les critères insertion va être du public un peu moins qualifié. Et le public qualifié, du coup, va en être plus rare. Donc oui, ça rejoint bien Cécile. Après, on a cette chance que l'État a diversifié les critères, permettant à ce public-ci de rentrer dans les critères d'insertion. Et du coup, on a aujourd'hui... si je pouvais donner un pourcentage sur du personnel peu qualifié, on peut au moins être à 60-70% de personnes qui rentrent dans les critères d'insertion et qui ne le savent même pas, en fait, pour le coup. parce que ça dépend effectivement de ces critères de l'État.
Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va souffler 2-3 minutes, on va marquer une courte pause musicale sur l'antenne d'RTVFM et se retrouver pour la suite de cette émission Envie d'entreprendre. Et je rappelle, le thème de cette émission aujourd'hui, c'est la clause d'insertion professionnelle. A tout de suite.
Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène, je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, du pays ou du père. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution, j'attends pas la révolution. Mais on change pas le cours de l'histoire en foutant le feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau. Plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prendra tôt. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Je tomberai pas.
Écoutez Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial local et réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venaissin.
Et de retour dans l'émission Envie d'entreprendre sur l'antenne d'RTVFM. Merci de nous rejoindre avec notamment le sujet du jour, c'est la clause d'insertion professionnelle. Et je vais rappeler nos invités pour cette émission. Sigrid Biel, vice-président délégué à la politique de la ville et aux actions solidaires à la COV. Cécile Lazim, facilitatrice clause sociale Nord-Vaucluse au Vaucluse au CIE 84, donc un collectif insertion emploi. Et aussi Nicolas Ramos, directeur technique de l'entreprise Arco Bâtiment à Carpentras. Et Caroline Faure, responsable de l'agence actuelle intérim insertion A2I à Carpentras. Merci d'être présent aujourd'hui autour des micros donc pour débattre avec nous sur la clause d'insertion professionnelle. Et je vais continuer cette émission avec Monsieur Biel. L'insertion des publics en difficulté en créant des opportunités d'emploi sur le territoire via la commande et les marchés publics et privés est-elle importante pour la COV?
Oui, comme on le disait tout à l'heure, ça fait vraiment partie des objectifs de la COV, politique de la ville ou pas, j'allais dire, tout ce qui est emploi est le cœur des objectifs de la COV. Donc c'est véritablement d'une importance prépondérante pour nous.
Ouais, et une utilité aussi importante, hein, l'utilité des clauses d'insertion sur le territoire.
Oui, tout à fait, c'est très utile parce que, comme on le disait tout à l'heure, au départ, on va être sur une obligation qui va être mise à la charge de l'entreprise, mais on s'aperçoit au fur et à mesure qu'à partir du moment où tout se passe comme il faut, et l'entreprise Arco l'a souligné, c'est également un bien pour l'entreprise. Donc au fur et à mesure, c'est pour ça que on passe de la contrainte initiale à l'opportunité. Et l'opportunité à la fois pour les personnes en recherche d'emploi, mais également pour les entreprises qui se retrouvent avec une main-d'œuvre.
Et alors justement, cette main-d'œuvre, en ce moment, qui sont issues plus ou moins de l'insertion professionnelle, la clause d'insertion professionnelle, combien vous avez actuellement de personnes environ, M. Ramos, qui sont sur les différents chantiers?
Alors en ce moment, on a, je dirais, 3 personnes qui sont issues de l'insertion sociale, dont une à plein temps. À chaque nouveau projet, on essaye de développer ce fonctionnement et on a environ entre 2 et 3 personnes par chantier qui sont concernées par la clause, quoi. Et on peut arriver à avoir des gens qui sont en agence d'intérim, qui rentrent dans la clause, mais qui ne sont pas forcément... on n'est pas en obligation de clause, je dirais, sur ces chantiers, mais ça nous permet d'avoir une main-d'œuvre qu'on aime développer et qu'on aime... qu'on aimerait garder à la fin. Quoi.
Alors ça, c'est un des points positifs, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Mmh. Et est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées lors de l'embauche de ces personnes, des fois? Enfin, avant l'embauche?
Alors la grosse difficulté, c'est de trouver des profils, comme on disait tout à l'heure. On n'a jamais eu de très gros problèmes avec des gens qui sont arrivés par la clause. Je dirais simplement, on peut avoir des problèmes avec des personnes en intérim, des personnes en CDI de chantier, donc des CDI qui sont là pour voir ce que la personne peut donner, et en clause d'insertion. On a eu de tous les profils, je dirais, mais jamais de très gros problèmes.
D'aller chercher peut-être ces personnes pour qu'elles viennent, est-ce que c'est une difficulté qui est rencontrée notamment par les agences d'intérim, où ces personnes-là se présentent directement sans trop de difficultés?
Alors on a une chance du coup d'être un réseau de SIAE avec un outil formidable qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, qui est une plateforme qui centralise toutes les candidatures des personnes qui rentrent dans les critères d'insertion, où ma collaboratrice se connecte tous les jours justement pour sélectionner ces différents profils. Et en parallèle de ça, elle peut également passer des annonces sur différents supports ou avoir accès à du passage agence et faire ce qu'on appelle de l'auto-prescription, c'est-à-dire ne pas forcément passer par une autre structure pour récupérer cette candidature, mais demander directement la possibilité de la faire rentrer dans les critères d'insertion. Donc on a plusieurs canaux aujourd'hui qui nous permettent de trouver du personnel, donc on n'a pas forcément de difficultés spécifiques.
Et pour compléter, si je peux me permettre aussi, c'est que dans le cœur de métier des structures de l'insertion, c'est d'accompagner, comme on disait, donc il y a des conseillers en insertion pro. C'est vraiment leur rôle de faire le lien entre le bénéficiaire et l'entreprise, donc d'être garant en cas de problématique. Ça peut être mon rôle aussi, en cas d'embauche directe par l'entreprise, de voir comment solutionner, si l'entreprise constate un manque, un besoin de formation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place c'est à la fois le rôle de la facilitatrice ou du conseiller en insertion pro ou de l'ETTI, de l'agence d'intérim, qui assure ce suivi de la personne pour sa suite de parcours.
Alors moi j'aimerais savoir un petit peu aussi ce que ça apporte pour ces ouvriers bénéficiaires et notamment vous allez les voir sur les chantiers des fois pour la première fois quand ils ont commencé, quel est le retour que vous avez des fois?
Alors moi c'est plus les entreprises, on en discutait tout à l'heure, c'est plus quand il y a le lancement d'une opération de travaux par exemple, l'objectif c'est de pouvoir être présente bien expliquer les modalités de la clause
à l'entreprise.
Entreprises et voir quels peuvent être leurs besoins et pour après en faire le relais, les mises en relation avec les partenaires de l'emploi. Là, c'est peut-être plus Caroline qui peut aussi expliquer côté personnel sur le chantier, le lien sur un premier.
L'avantage, en fait, c'est que quand on fait démarrer un intérimaire sur chantier, on voit l'évolution au fur et à mesure du temps.
Ça fait partie de l'accompagnement, justement, d'assurer par le biais de formation ou peut-être de confier des tâches supplémentaires, de diversifier les tâches. Ça fait partie de l'évolution professionnelle et c'est un levier supplémentaire, en fait, pour faire évoluer ces candidats dans leur parcours professionnel. Et c'est vrai que quand on attaque un chantier et qu'on fait le premier jour la mise en place et qu'on y retourne un mois ou deux mois après, on voit l'évolution, on voit l'intégration de la personne au sein des équipes. On fait le point et avec notre intérimaire, mais également avec le chef d'équipe, parce qu'on est, voilà, c'est une relation tripartite, hein, donc l'idée, c'est de faire le point sur comment notre intérimaire a pu évoluer, a pu avancer. Et puis souvent, les belles réussites, c'est quand derrière, il y a une embauche. Alors ça, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ou comme c'est le cas pour nous, je prends un exemple très concret. On accompagne aujourd'hui l'entreprise Jiménez, Charpente, qui intervient sur beaucoup de chantiers et de marchés closés là, sur Carpentras, dépendant de la COF du coup. Et on a notre intérimaire, Juan, qui a fait un chantier, deux chantiers, trois chantiers, quatre chantiers. Il en est à son cinquième chantier depuis le début de l'année. Donc c'est pour nous, c'est une belle évolution, c'est une belle réussite. Et puis alors, la plus belle des réussites, c'est quand notre intérimaire vient le vendredi soir chez nous et qui nous dit je suis super content parce que je suis prolongée, que ça se passe très très bien et voilà, je sens que j'ai envie d'évoluer, que j'ai envie d'en apprendre plus.
Et peut-être à la clé, donc un emploi définitif, un CDI, c'est arrivé déjà chez vous notamment?
Oui, on en a en cours depuis une année maintenant, Mickaël.
Oui, c'est ça, je me rappelle. Je venais d'arriver quand justement j'ai...
Et alors, quel est son profil un petit peu à Mickaël? Est-ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure? Il n'y a pas de profil type?
Oui, donc Mickaël, c'était quelqu'un qui était en recherche d'emploi depuis un petit moment maintenant. On lui a donné une mission spécifique qui est presque plus intellectuelle, je dirais, que physique, sur un chantier sur Baume de Venise, qui était la gestion de l'ensemble des réserves de l'opération, donc tout ce qui est... je dirais, fin de chantier, donc avec des tâches spécifiques à réaliser et à cocher pour avoir un suivi du chantier et une organisation de tous les corps d'État.
Le bilan est très positif, donc on a des chiffres qui sont très importants, donc je pense que vous les avez encore
mieux que
moi.
On est à 977 bénéficiaires en 10 ans, alors que la mise de départ, c'était... en gros, on a dépassé la barre des 200 000 heures d'insertion en 10 ans, alors qu'au tout début, le PNR4, c'était une projection pour 9 500 heures. Donc,
c'est
6 équivalents temps plein à l'origine, projeté dans le cadre d'une obligation politique de la ville, qui maintenant s'est transformée en plus d'une centaine d'emplois d'équivalent temps plein sur le territoire.
Donc on imagine bien tout ce qui s'est passé depuis 10 ans et je crois que l'entreprise Arco le résume bien comme tout à l'heure. Comme on le disait, c'est vrai qu'en 2011-2012, les entreprises étaient assez récalcitrantes, les élus aussi. Et lorsque tout à l'heure l'entreprise Arco nous dit que même dans les marchés où il n'y a pas cette clause d'insertion, on a maintenant le réflexe de faire appel comme s'il y avait la clause, c'est exactement, je crois, l'objectif que l'on avait au tout début. Et c'est vrai que si on nous avait dit ça 10 ans auparavant, je pense qu'on aurait signé tout de suite.
Peut-être aussi expliquer, parce qu'il y a des secteurs en tension actuellement, le secteur du bâtiment est en tension pour rechercher la main-d'œuvre, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, ce qui peut expliquer aussi que les entreprises sont moins récalcitrantes justement à passer par ces dispositifs.
Oui, tout à fait, le contexte y joue bien entendu. Mais maintenant, comme on l'a dit, depuis 2016, il y a eu un véritable changement dans l'approche de la clause et dans tout ce qui a pu être mis en place pour booster son recours. Et donc, c'est le tout mis en place qui fait qu'on arrive à ces résultats très positifs.
Alors, avant de clôturer cette émission Envie d'entreprendre, et oui, 30 minutes, ça passe très vite, je souhaitais savoir si vous souhaitiez revenir sur un sujet ou en tout cas le mot de la fin pour cette émission.
Peut-être pour rester sur une note positive aussi, dire que c'est aussi un travail en lien avec les partenaires de l'emploi, mission locale, Pôle emploi, et qu'un constat qui va aussi dans le sens de tous les bienfaits dont on parlait concernant la clause, c'est que plus de 50% des bénéficiaires sont dans l'emploi 18 mois après leur démarrage dans un parcours.
Et c'est important de le souligner, oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui a été rendu visible à deux reprises. Et donc, on voit bien qu'il y a un effet levier incontestable dans un retour à l'emploi. Donc grâce après à tous les partenaires, toutes les structures qui œuvrent Donc les structures de l'insertion, comme on disait, les agences d'intérim, de l'insertion. Enfin, il y a vraiment tout un maillage sur le territoire qui permet cette continuité de parcours positive aussi.
Monsieur Ramos, pour vous, c'est une satisfaction aussi d'entendre que ce dispositif va continuer, va perpétuer.
Oui, effectivement. Nous, comme je le disais tout à l'heure, le très gros problème dans le bâtiment, c'est le recrutement. Et aujourd'hui, cette clause permet d'élargir le ventail de gens qui sont à la recherche d'emploi et qui peuvent devenir potentiellement des partenaires.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette émission. Donc, je rappelle, le sujet, c'était la clause d'insertion professionnelle. Et donc, c'était l'émission Envie d'entreprendre, l'émission qui met en avant le dynamisme des entreprises et l'initiative au service des entreprises. Et merci donc à nos invités. Monsieur Siegfried Biel, donc vice-président délégué à la politique de la ville aux actions solidaires à la COV, merci. Merci aussi à Madame Lazine Cécile, facilitatrice clause sociale Nord-Vaucluse au Vaucluse au CIE 80. 4, donc collectif insertion emploi. Merci aussi à Nicolas Ramos, directeur technique de l'entreprise Arco Bâtiment à Carpentras.
Merci à vous.
Et enfin, Caroline Faure, responsable de l'agence actuelle intérim insertion A2I à Carpentras.
Merci à vous.
Voilà, donc on arrive déjà au terme de cette émission Envie d'entreprendre. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour un prochain numéro sur l'antenne d'RTVFM. Au revoir.
Venez d'écouter Envie d'entreprendre, l'émission qui donne la parole au tissu entrepreneurial local et réalisée en partenariat avec la COV, communauté d'agglomération Ventoux, Comtat-Venaissin.